RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
J'ai l'habitude de vous dire qu'il est 18h10, mais non, il est 17h le 17-18 local avec Alexis Claudretz.
À horaire exceptionnel, programme exceptionnel, le magazine estival, le premier des vacances pour vous accompagner ce lundi 10 juillet. Peut-être que vous avez la chance de profiter du soleil, et bien si c'est ça, continuez de bien profiter, les pieds en éventail, en prenant le goûter avec nous, ou déjà l'apéritif, ça dépend si vous commencez de bonne heure ou pas, et puis si vous travaillez, eh bien vous êtes courageux, on pense bien fort à vous, et quoi qu'il en soit, on est là pour vous accompagner sur les ondes de RCF France-Ardenne, mais aussi avec tous nos amis de la Champagne-Ardenne, notamment qui nous écoutent via la radio numérique, le DAB+. Au programme ce soir, un habitué du lundi, Jean-François Boulanger, pour regarder sur le monde, et parfois le monde, eh bien il est à notre porte, c'est l'histoire des quartiers qui sera racontée par Jean-François Boulanger pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer lors des violences urbaines. On ouvrira un dossier, celui de l'incendie de l'église de Dronay, avec Monseigneur François Touvet notamment, qui sera là pour réagir suite à ce terrible drame qui a touché le diocèse de Châlons vendredi dernier. Ça sera un dossier complet proposé par la rédaction de RCF Cœur de Champagne avec Christopher Fausten et Gérald Gaillet. On ira faire un tour également du côté de Charleville-Mézières pour présenter l'édition 2023 du Festival Mondial du Théâtre de Marionnettes. Quelques pistes en médecine avec le docteur Hervé Ruinard, président du syndicat des médecins généralistes, avec une crise de recrutement du côté des médecins. Et puis on ira se balader aussi sur notre territoire, notamment pour présenter l'exposition Témoins qui est proposée par des résidents de l'Arche à partir du 20 juillet prochain à la petite halle Quartier Libre de Reims. Yann, qui est éducateur à l'Arche, viendra avec Ézéchiel et Alice, qui en sont résidents dans nos studios, présenter leurs travaux visibles donc lors du vernissage. On se posera une question en regardant de nouveau sur le monde, mais avec Claude Ruiz, cette fois, où est enterré Christophe Colomb? Tiens, eh bien, peut-être que vous aurez certaines réponses à ces questions. Et on terminera en sport avec un témoin local, Nicolas Nepper. Il est actuellement au championnat du monde de para-athlétisme qui se déroule du côté de Paris depuis ce week-end. Voilà pour le sommaire de cette émission, de ce magazine estival, ce lundi soir. Mais nous, on commence donc, comme promis, avec Jean-François Boulanger. J'allais dire, on ne change pas les bonnes habitudes. Il nous rejoint en studio. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et on va revenir sur ce qui a fait l'actualité ces dernières semaines, ces derniers jours, avec ces violences urbaines. La mort du jeune Naël a provoqué littéralement l'embrasement de ce qu'il est convenu aujourd'hui, les quartiers. L'occasion de revenir pour vous, Jean-François, sur l'histoire de ces quartiers.
Oui, alors on met des guillemets autour du mot quartier parce que c'est un terme qui est une réalité, qui a connu une évolution depuis leur création et on l'oublie souvent. Donc c'est l'occasion de revenir là-dessus. Et je vais en parler à partir de l'histoire de la région sur laquelle nous diffusons. On va parler d'un certain nombre de villes, Reims et Châlons en l'occurrence. Et à cet égard, je mobiliserai mes propres souvenirs qui concernent effectivement ces deux villes et donc les deux diocèses. Et on va commencer par la décennie qui suit donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
39-45, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous commençons donc par la période 1945-1955, une époque où les grands ensembles n'existaient pas encore.
Oui, absolument. Et c'était une époque, on l'a beaucoup oublié aujourd'hui, qui était marquée par une forte crise du logement. Des logements qui n'étaient pas assez nombreux et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'avaient pas les équipements qui sont aujourd'hui considérés comme un minimum. Je prends l'exemple de Reims. Selon le recensement de 1954, 5% des logements de Reims n'avaient pas l'électricité, 9% n'avaient pas l'eau courante, 49% étaient sans WC intérieur, donc il y en avait 1 sur 10 qui n'avaient pas l'eau, et 1 sur 2 où il fallait aller sur le palier pour aller aux toilettes. Et donc 55% étaient sans tout à l'égout et 88% sans chauffage central. Ajouté à cela, le fait qu'un certain nombre de villes de notre région avaient subi des destructions pendant la guerre et n'ont été reconstruites que très très lentement. Dans mon souvenir, par exemple, il y avait encore des baraquements provisoires dans la ville de Vitry-le-François qui avait été détruite pendant la guerre, et ceci au milieu des années 50 et même après. Et puis il y a un personnage qui est assez emblématique de cette situation, c'est l'abbé Pierre, puisque l'abbé Pierre prend la parole à la radio à la suite de la mort d'une femme sans abri, morte dans la rue, pendant le terrible hiver 1954.
Les grands ensembles, comme on va donc les appeler, Jean-François, sont donc une réponse à cette situation?
Absolument, et on oublie aussi qu'ils ont été à l'époque un progrès pour ceux qui s'y installaient. Parce qu'on avait par exemple une salle de bain, on a vu ce qu'il en était tout à l'heure, avec une baignoire sabot certes, mais quand même une baignoire, un chauffage central, avec une chaudière à charbon dans chaque appartement. On remontait d'ailleurs le charbon chaque jour de la cave de l'immeuble qui servait à ça à l'époque, les fameuses caves. Et de nouveaux quartiers donc apparaissent alors à la périphérie des villes. Les équipements de ces quartiers sont au départ souvent insuffisants. Il n'y a pas de commerce pratiquement. On est à l'écart. À Châlons, c'est par exemple la Bidée, en haut de la côte de Troyes, et le quartier Émile Schmitt au bout du faubourg Saint-Antoine. Leur population, d'ailleurs, est temporairement plus diverse socialement. Mais ces nouveaux quartiers, où il n'y a pratiquement aucun travailleur immigré à l'époque, ont souvent, dès cette époque, mauvaise réputation. C'est le cas, par exemple, à Châlons, du quartier Émile Schmitt. Et la population, à l'époque, par contre, est souvent encadrée politiquement par le Parti communiste. Toujours à Châlons, c'est le cas du quartier de la Bidée, qu'on appelle la Butte Rouge, où les cheminots sont très nombreux. J'évoquais le cas de la Bidée, j'ai fréquenté l'école Pierre Curie du quartier, qui était à l'époque toute neuve, et j'avais pour condisciple le fils d'un cheminot communiste appelé à être très connu à Châlons, qui s'appelait Jean Ressier.
Alors Jean-François Boulanger, j'en profite, vous venez d'évoquer les travailleurs immigrés. Quand apparaissent-ils dans les quartiers ?
Alors, il faut d'abord se rappeler que l'immigration, en fait, est un phénomène très ancien en France. On feint de la découvrir aujourd'hui. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était surtout des Italiens et des Polonais. Par exemple, il y avait des ouvriers agricoles polonais dans les campagnes des Ardennes ou de l'Aisne à l'époque. Et c'était aussi, en nombre plus restreint, quelques Algériens, le plus souvent Kabyles, parce que la Kabylie est une région très pauvre. Chaque catégorie d'immigrés a connu des problèmes d'intégration plus ou moins importants. On oublie souvent que les Italiens, par exemple, n'ont pas toujours eu bonne presse, loin de là, qu'on leur reprochait leur inassimilation qui a été visible en 40 quand ils ont rejoint l'armée italienne pour combattre contre la France. Pendant les Trente Glorieuses, une nouvelle immigration apparaît qui est présente notamment sur les chantiers du bâtiment de ces villes qu'il faut reconstruire, de ces centrales hydrauliques qu'il faut à l'époque construire et dans l'industrie où les emplois d'ouvriers spécialisés non qualifiés sont nombreux. Ce sont souvent effectivement des maghrébins, des hommes seuls. Mais à partir de 1976, le regroupement familial est autorisé.
C'est-à-dire finalement au moment où commence à se faire sentir la crise économique.
Oui, ce qui veut dire que l'intégration de ces travailleurs immigrés va se faire dans des conditions économiques plus difficiles. Petite remarque, le mot « travailleur immigré » va disparaître du vocabulaire parce que, justement, le type d'emploi que ces travailleurs immigrés et leurs enfants occupaient, c'est-à-dire des emplois d'ouvriers non qualifiés, sont frappés par la baisse de l'activité industrielle en France. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui la désindustrialisation. Significativement, effectivement, l'expression de « travailleur immigré » n'est plus employée et lorsque, en 1958, l'historien Louis Chevalier écrit un livre qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse », il décrit la situation des faubourgs ouvriers au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, il y a toujours des classes dangereuses, mais de moins en moins de classes laborieuses au sens du XIXe siècle.
Alors très bien pour, ces explications, mais comment ces travailleurs immigrés et leurs enfants arrivent-ils dans les grands ensembles ?
Alors au départ, il n'y en a pratiquement pas. Ils vivent, dans le cas des célibataires, dans des foyers pour travailleurs immigrés de la Sonacotra, ou alors dans l'habitat dégradé des centres-villes, ou dans des faubourgs. L'exemple typique, c'est le faubourg Barbès à Paris. Soit dans des grandes agglomérations, carrément dans des bidonvilles. On l'a oublié aussi, il y avait des bidonvilles en France jusque dans les années 60, dont le plus connu était celui de Nanterre. Mais ces habitats dégradés ou précaires vont disparaître progressivement et on voit à ce moment-là arriver dans les HLM des grands ensembles ces familles de travailleurs immigrés. Pour eux aussi, l'arrivée dans des logements HLM constituait donc un progrès. On entend souvent dire que les quartiers constituent des ghettos où on a relégué les travailleurs immigrés dans des immeubles de qualité médiocre. Tout ce que je viens de dire tend à montrer que la réalité est quand même très différente et que pour ces travailleurs immigrés ou leurs descendants, l'arrivée dans ces quartiers a plutôt été un progrès, comme pour ceux qui les avaient précédés. Et pourtant, ces quartiers ont aujourd'hui mauvaise réputation, les événements récents n'ayant, bien entendu, rien arrangé.
Alors, je vais vous demander, avec votre regard d'historien, Jean-François Boulanger, d'essayer de nous donner quelques pistes, mais comment en est-on arrivé ?
Alors, si on prend l'exemple du quartier Croix-Rouge à Reims, qui a une réputation pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque ce quartier est créé, il est créé dans un contexte de croissance spectaculaire de la ville et de l'économie de Reims. Il y a un plan qui s'appelle le plan Rotival, qui prévoyait que la ville atteigne 200 000 habitants en 1980, ça sera atteint, même avant la date, et 400 000 en l'an 2000. Et là, on est bien d'accord que ça n'a pas été éteint. Les moteurs de cette croissance devaient être une montée en puissance de la qualification de la main-d'œuvre ouvrière et du même coup du type d'usine de Reims, où les taux d'ouvriers non qualifiés étaient plus élevés que dans les autres villes de la grande couronne parisienne, Amiens, Troyes, etc., et un début de tertiarisation de la ville avec des emplois plus qualifiés. Et Croix-Rouge allait donc accueillir à la fois le tertiaire supérieur de la ville avec l'université et aussi des logements pour cette nouvelle population, des ouvriers, mais aussi des salariés du tertiaire. Un exemple typique de la volonté de l'époque, c'est les structures sportives qui sont créées dans le quartier. Il y avait des courts de tennis à Croix-Rouge. Il y en avait par exemple un, avenue du Général Bonaparte, en face du lycée Arago. Et petit à petit, il a disparu, il a été transformé en terrain de basket. Le modèle, c'est évidemment Harlem. Et puis, il est devenu tout simplement un parking. Donc, une évolution significative de l'échec de la tentative de mixité sociale du quartier Croix-Rouge, qui, comme celle des autres quartiers du même type, a reculé.
Pourquoi ce recul, voire, on ose le dire, cette disparition de la mixité sociale ?
Ces quartiers accueillent des habitants qui, pour partie d'entre eux, ne veulent pas y rester. C'est simplement un passage pour aller ensuite s'installer dans une petite maison individuelle, dans la ville elle-même, où, quand l'augmentation du prix du foncier est devenue insupportable, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain, les villages alentours. Ils quittent donc le quartier. Et qui sont les partants ? Majoritairement, ce sont les premiers arrivants, des Français d'origine européenne, qui parfois d'ailleurs ont quitté le quartier il y a bien longtemps. Mais ça peut être aussi des étrangers. Un exemple, les Vietnamiens qui arrivent dans ces quartiers, par exemple le quartier des Châtillons, donc après la défaite des Sud-Vietnamiens et la prise de Saïgon par les communistes, on les retrouve d'abord à Châtillon, mais désormais ils sont plutôt dans des maisons individuelles dans le quartier du Val-de-Murigny, mais aussi dans une moindre mesure des Maghrébins.
Alors Jean-François Boulanger, pourquoi cette différence entre des immigrés d'origine
différente ? Alors, on dit souvent cela des raisons ethniques, voire raciales. Les Asiatiques seraient des travailleurs discrets qui se seraient mieux intégrés.
On est dans les clichés presque.
Voilà, c'est des clichés. La réalité est toujours plus complexe. Et la vérité, c'est qu'on peut mettre l'accent aussi sur d'autres caractéristiques. Cette immigration vietnamienne ou cambodgienne était généralement le fait de réfugiés fuyant leur pays pour des raisons politiques. Ils avaient souvent un niveau de qualification plus élevé et n'avaient guère l'espoir de revenir au pays, donc s'investissaient sans réserve dans le pays d'accueil. Par contre, les Maghrébins constituaient une immigration économique à faible qualification, à part quelques étudiants qui, significativement, aujourd'hui, peuvent être universitaires ou médecins hospitaliers. Donc, cette immigration maghrébine a longtemps entretenu l'espoir de revenir au pays vers lequel elle dirigeait une partie importante de sa maigre épargne. Mais dans un deuxième temps, la deuxième ou la troisième génération de cette immigration va connaître pour une partie d'entre elles, pour une partie seulement, une progression économique qui l'amène à quitter le quartier et tous ceux qui partent, sont partis, sont remplacés par une immigration plus récente, des Africains originaires de l'Afrique subsaharienne notamment.
Avec un dernier élément,
absolument, qui peut expliquer le recul de la mixité sociale dans ces quartiers, c'est le fait que depuis de longues décennies, le parc de HLM ne grandit plus, voire diminue à la faveur de la rénovation des quartiers, où on ne reconstruit pas autant de logements qu'avant, exemple Wilson. Et dès lors, seuls les plus pauvres ont accès à un habitat social qui est devenu plus rare. Il y a aujourd'hui en France, tout au moins dans les grandes villes, une profonde crise du logement dont on parle peu, c'est un non-dit du discours politique dominant, et c'est sans doute la conjugaison de l'ensemble de ces facteurs qui ont contribué à créer cette situation explosive dans les « entre guillemets » quartiers.
Merci Jean-François Boulanger d'avoir regardé sur le monde et comme quoi parfois le monde est à notre porte, ici
absolument,
à Reims, à Charleville-Mézières ou à Châlons-en-Champagne. À très bientôt Jean-François.
À très bientôt.
À Reims, Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Ouverture d'un dossier bien triste désormais sur les ondes de RCF Reims-Ardennes. L'église à pans de bois de Dronay, à l'ouest de la région Grand Est, a été touchée par un incendie vendredi. Hier, un moment de recueillement était organisé par la commune en présence de Mgr François Touvet, évêque de Châlons. C'est aux alentours de midi ce vendredi qu'un incendie a détruit l'église Notre-Dame de l'Assomption de Dronay dans l'espace missionnaire du Pertois, dans le diocèse de Châlons. Donc, à l'arrivée des secours, 41 sapeurs-pompiers et 11 véhicules étaient mobilisés. L'édifice en pans de bois de la première moitié du XVIIe siècle est totalement embrasée. L'église était classée au titre des monuments historiques depuis décembre 1982. L'action rapide des sapeurs-pompiers a permis de limiter le risque de propagation et de sauvegarder la maison située à proximité de l'église. Aucune victime n'est à déplorer. Un choc pour le maire du village, Emmanuel Leroy.
Quand on devient maire, on n'imagine pas qu'on va avoir ça durant sa mandature. L'église Notre-Dame de l'Assomption qui part en flammes en une demi-heure et dont il ne reste pratiquement plus rien puisque maintenant seul le porche est debout. Ouais, c'est vraiment une tragédie, absolument. Ouais. L'enquête est en cours. Elle n'a pas pu se finir hier matin parce qu'il y avait encore énormément de braises et de flammes dans les décombres. Donc trop de risques et trop de problèmes pour pouvoir déterminer les causes et trouver des éléments d'enquête. Donc on va attendre effectivement l'enquête de la gendarmerie et je pense rester derrière leur conclusion. Peut-être qu'on ne pourra pas conclure, peut-être que ça conclura sur quelque chose de tout à fait, on va dire, problématique au niveau électrique. Mais bon, on va attendre de toute façon.
Un choc aussi pour Liliane et Olivier, habitants du village qui ont connu de grands souvenirs dans cet édifice.
Mon baptême, ma communion, marier mes enfants, baptiser mes petits-enfants, tout. Alors pour moi, c'est un malheur. Mais bon, j'espère qu'ils vont garder le porche et qu'ils vont faire quelque chose quand même. Il faut.
C'est malheureux parce que j'ai fait mon baptême en 1939 et j'ai fait ma communion également en 1950. Mais autrement, c'est un désastre de voir ça, c'est inadmissible.
Un temps de prière était organisé hier dimanche en fin d'après-midi en présence d'une nombreuse assistance dont les curés desservant la paroisse Saint-Jean apôtre de Marne et Bocage sous la présidence de Mgr François Touvet, évêque du diocèse de Châlons.
Quelle était votre première réaction lorsque vous avez été prévenu de l'incendie de cette église ?
Le silence. J'ai répondu au message que m'envoyait le père Marc Aymard et 5 minutes après, le préfet me téléphonait pour m'en informer et me dire aussi la proximité de l'État avec toute la communauté catholique. Donc ça a été d'abord le silence. Et une fois sûr qu'il n'y avait pas de victimes humaines, je me suis dit, il faut que nous vivions ce moment-là, avec toute cette dimension dramatique, il faut que nous la vivions avec courage, tous ensemble, avec confiance, et puis qu'on essaie tout de suite de se dire, mais soyons des bâtisseurs. Alors peut-être des bâtisseurs d'une église dans le village, mais bâtisseurs de fraternité, bâtisseurs d'amitié. On est dans un monde où chacun s'enferme chez soi. Il me semble que moi, comme évêque, je peux délivrer ce message. C'est vraiment de nous retrousser les manches pour construire ensemble un monde plus beau et plus juste. Et la foi, pour les chrétiens, en est justement le rocher. Elle en est la lumière, le point d'appui. Cette église qui a brûlé, c'était le cœur du village. Et la communauté catholique est heureuse dans beaucoup de nos villages de pouvoir se rassembler dans les églises. J'ai voulu manifester ma proximité, dire que moi aussi je portais cette douleur et que je voulais encourager les uns les autres à ne pas capituler devant ce drame, mais à peut-être se rassembler davantage encore pour faire vivre la communauté chrétienne, parce que l'église c'est aussi cela, c'est la communauté des chrétiens.
Pour l'association de sauvegarde de l'église Notre-Dame de Dronay, il faut reconstruire l'église dès que possible. Parmi les objets mobiliers dont elle disposait, elle comptait 10 objets protégés au titre des monuments historiques inscrits, dont 4 statues du XVIIe et XIXe siècle, un maître-autel du XVIIe siècle et 19e siècle, un autel du 18e siècle, des verrières deuxième quart du 16e siècle et deuxième moitié du 19e siècle, des bancs et des menuiseries datées du 18e siècle. Anne-Marie Vermeulen, présidente de l'association de sauvegarde de l'église Notre-Dame de Dronay.
Je n'ai pas pu la sauvegarder. Quand on est arrivé, on a vu le toit qui flambait et puis on a vu le clocher qui s'écroulait. Et ça a été tellement vite, c'est tellement fort qu'il y a eu au départ un moment de sidération. Donc c'est pas évident de s'exprimer dans ces conditions-là. Ce que ça représente pour l'association, c'est une chute là. Mais en même temps, aujourd'hui, on a pensé à la journée de recueillement. Et à partir de demain, tout de suite, on va se réunir, trouver toutes les pistes possibles pour reconstruire une église. C'est important. On ne sait pas encore si elle sera à pans de bois, si ce sera autre chose. Notre but, c'est de démarrer au plus vite et de penser à l'avenir, penser à demain et puis rêver aussi surtout.
Des propos recueillis par nos confrères de RCF Cœur de Champagne, Gérald Gaillet et Christopher Fausten. En attendant les résultats de l'enquête de gendarmerie, vous pouvez noter sur vos agendas qu'un concert de chant grégorien aura lieu. Ce sera le dimanche 15 octobre 2023, évidemment, à 17h à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, au profit de la reconstruction de l'église Notre-Dame de Dronay. Un reportage autour de ce sujet est à découvrir en vidéo sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
On vous donne quelques rendez-vous désormais dans ce magazine estival. Demain de 14h à 17h au 16 rue du Barbâtre à la maison Saint-Sixte de Reims, vous pouvez venir vous inscrire au bureau des pèlerinages pour le pèlerinage diocésain à Lourdes organisé au mois d'août. Il reste encore quelques places de disponibles. Voilà, il y a une permanence de 14h à 17h demain mardi 11 juillet. N'hésitez pas à vous rendre sur place. Et puis on prend la direction des Ardennes avec le Festival mondial des théâtres de marionnettes qui revient pour une 22e édition. Ça sera du 6 au 24 septembre prochain. La présentation du programme au public a été faite récemment.
La marionnette est à Charleville-Mézières ce que le cinéma est à Cannes. C'est ce qu'a confié à nos confrères de l'Ardennais Pierre-Yves Charlois, le directeur du festival et de l'Institut international de marionnettes. Et pour cause, le FMTM est le plus gros festival du monde dans le domaine. Au micro de Catherine Squevin, Pierre-Yves Charlois en a profité pour donner des chiffres qui donnent le vertige.
Il y a 86 équipes artistiques qui présenteront 94 spectacles pour 446 représentations. Pendant les 9 jours de cette 22e édition, vous avez la moitié des équipes artistiques qui ne sont pas françaises. Vous avez plus du tiers de la programmation qui sera présentée pour la toute première fois en France. Voilà, elles seront créées à Charleville. Et vous avez à peu près un quart de cette programmation qui a été coproduite par le festival. Coproduire, ça veut dire donner de l'argent aux artistes pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent construire les marionnettes, pour qu'ils puissent répéter. C'est ce qui fait aussi du FMTM un festival de création.
Le programme avec la liste des spectacles est accessible dès à présent sur le site internet des FMTM. Petit changement cependant dans la programmation par rapport aux éditions précédentes, il n'y aura pas de spectacle d'ouverture sur la place Ducal. Après avoir expliqué qu'il préférait miser sur un ensemble de représentations plutôt qu'un spectacle unique, le directeur du festival précise les autres raisons qui motivent ce choix.
Je conçois que certains puissent être déçus parce qu'ils gardent un grand souvenir de ces grands spectacles d'ouverture. Je préfère, quant à moi, dans un contexte de sobriété, dans un contexte d'urgence climatique, donner la chance à 150 000 spectateurs de voir tout au long de la semaine des installations marionnettiques qui habiteront la place Ducal pendant les 9 jours de festival, plutôt que de concentrer tous les moyens pour un one-shot qui durera 35 minutes et qui coûtera très cher.
Malgré l'inflation depuis 2021, les organisateurs ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs et d'introduire quelques nouveautés concernant la billetterie.
C'est un choix très fort. Parce qu'en période inflationniste et puis avec la hausse des coûts d'énergie, des coûts de prestation qui sont importants, c'est un geste très fort que nous avons choisi de faire en maintenant les tarifs de 2019 et propose une évolution dans les formules qui laisse plus de latitude aux festivaliers ou à la festivalière de faire ses choix. Vous achetez une carte à 19 euros, qui est le prix plein d'un billet, et cette carte vous donne, comme vous le souhaitez, un tarif réduit pour l'ensemble des spectacles que vous souhaitez ensuite. Auparavant, vous étiez contraint d'acheter ou 3, ou 6, ou 10, ou 20 spectacles. Là, vous achetez votre Mario Kart et vous pouvez n'acheter que 4 spectacles ou seulement 15. Et si au bout des 15, vous vous rendez compte que vous avez envie d'en acheter encore, et bien vous en rachetez. Voilà, vous n'êtes pas tenu de faire l'intégralité de votre choix du premier coup. Ça vous laisse plus de latitude, plus de souplesse, plus de réactivité.
Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre Mario Kart pour 19 euros au tarif plein et 9 euros au tarif réduit.
Merci Luca Mastroilo. On rappelle les dates donc du 16 au 24 septembre prochain. Réservez vos places sur la billetterie en ligne sur le site du festival. Et on reste dans les Ardennes avec un rendez-vous qui est un petit peu plus proche en termes de date. C'est le mercredi 26 juillet prochain à Bâlon, le pèlerinage de la Sainte-Anne. Dès 10h du matin, aux alentours de 10h15, l'accueil au calvaire à la sortie du village, route de la Horgne. À 10h30, on se met en route pour le pèlerinage. À 11h15, une messe dans la clairière de la chapelle. En cas de pluie, la messe se fera à l'église. Voilà pour le programme qui vous attend ce 26 juillet. Tout le monde est le bienvenu. Parents, grands-parents, vos enfants et petits-enfants sont en vacances. Eh bien, nous vous invitons à vivre avec eux le pèlerinage et le pique-nique. Ils pourront participer à des temps d'animation au programme. Il y aura également des verres de l'amitié, la possibilité d'un pique-nique sorti du sac. Et puis, des tables et des bancs sont à disposition. C'est merveilleux. Le soleil devrait être là. Ils ont aussi commandé la météo. Voilà un pèlerinage bien organisé dans les Ardennes à Bâlon.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Notre invité est désormais le docteur Hervé Ruinard, président du syndicat des médecins généralistes, entretien au micro de Jean-Pierre Benoît.
Docteur Hervé Ruinard, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'en ce moment, chez les médecins généralistes, on parle de crise du recrutement. C'est vraiment réel. Il y a actuellement un blocage au niveau des instances, des négociations.
C'est pas débloqué. Hein.
C'est plus que compliqué. Là, d'ailleurs, on devait avoir une réunion au niveau national pour les patients en infection longue durée, donc des patients à pathologie lourde. Et devant le gouvernement qui prend une position extrêmement rigide, eh bien, les syndicats en général, donc hein, tous les syndicats confondus, ont refusé d'aller à cette réunion pour discuter de rien, puisqu'il n'y a rien sur la table. C'est toujours ça le problème.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous inquiétez à juste titre, docteur Hervé Ruinard, parce que vous sentez que naît une crise des vocations de médecins généralistes, parce que vraiment, ils ne sont pas dans des conditions satisfaisantes.
Voilà, les conditions de revenus, effectivement, des généralistes deviennent un peu compliquées. C'est pour ça qu'il y a un mouvement tarifaire de 30 euros, voire un peu plus chez certains, qui commence à poser des problèmes. Et ça, effectivement, les caisses d'assurance maladie sont prêtes à dégainer des sanctions pour ces problèmes de dépassement. Donc, ça va être compliqué de laisser passer les dépassements très longtemps. Donc, ça va être encore plus tendu dans les semaines à venir avec les médecins généralistes. C'est clair.
Les médecins qui arrivent, bon, qui sont d'une génération différente des médecins d'il y a quelques années, ils mettent en priorité tout de même un confort de vie qui est quand même différent de ce qu'on a connu. Ils veulent quand même pouvoir vivre, respirer,
voilà, tout à
pas
fait.
Être...
Il y a un changement de mentalité un petit peu. Ils souhaitent avoir une vie plus confortable, des horaires plus adaptés, avec un travail en groupe, ça, impératif, puisque si on veut travailler sur une grande plage horaire, il faut s'organiser en groupe pour le faire fonctionner. Donc ça, ils sont bien d'accord pour le faire, mais effectivement, avec une disponibilité, parce qu'on veut avoir une vie familiale peut-être renforcée et autre, donc ce qui est tout à fait louable, hein, par ailleurs. Donc voilà, la qualité de vie est passée plus en avant aujourd'hui et ça pose un problème au niveau démographique aujourd'hui.
Les jeunes s'inquiètent, même lorsqu'ils sont en groupe, d'une charge de travail, d'une responsabilité forte. Hein,
Alors voilà, la responsabilité vis-à-vis de nos patients, avec la rémunération qui est en face, c'est ça qui coince au niveau des jeunes. Donc effectivement, ils disent pour la charge qu'on a, eh bien effectivement, on n'est pas rémunérés à notre juste valeur. Donc là-dessus, ils bloquent complètement. Donc c'est pour ça qu'ils refusent de s'installer et préfèrent remplacer, puisqu'ils ont des conditions plus favorables en remplacement.
Et il y en a qui préfèrent même être salariés.
Alors oui, le salariat est une forme, effectivement, avec peut-être légèrement moins de revenus, et encore, ça reste à prouver, et avec une sécurité de l'emploi, avec moins de charges administratives, mais quand même, il faut que cette charge administrative, elle soit prise en charge par quelqu'un. Donc les centres de soins qui ont vu le jour un petit peu partout, postes de salariat, il faut une participation des communes, des régions, des structures, disons, de responsabilité pour financer. Mais ça, c'est quelque chose qui commence à poser certains problèmes, puisque là, on a eu une fermeture d'un centre de soins récemment pour défaut, en fait, de paiement, puisque le système n'était pas rentable, si on peut le mettre entre parenthèses, bien sûr.
Il y a peut-être aussi des jeunes médecins, enfin, qui veulent aller 3 jours là, 2 jours là, qui s'organisent au niveau...
Alors, effectivement, le poste de salariat peut offrir, par exemple, à des jeunes confrères la possibilité de travailler à mi-temps, à temps partiel, prendre des créneaux horaires. Donc ça, ça leur plaît bien. Donc effectivement, quand on est une charge d'un cabinet, on est obligé d'y être du lundi matin au normalement samedi midi. Donc effectivement, ça peut angoisser. Mais si on est dans un groupe, on peut répartir les jours. On peut prendre un jour dans la semaine, on peut prendre une après-midi. Enfin, il suffit de s'organiser avec des confrères pour gérer ce côté qui peut paraître contraignant au départ, mais qui, une fois dans un groupe, peut s'effacer.
Que peut-il se passer? Alors, on n'est pas prophète, mais dans 10 ans, dans une échéance de 10 ans, si ça continue comme ça, il va y avoir des problèmes quand même.
Alors, dans 10 ans, on pourra, je pense, être rassuré parce que les effectifs ont vraiment remonté. Bon. Et y compris en médecine générale. Bon. Le problème, c'est dans les 5 à 7 ans qui viennent, où là encore, les effectifs ne sont pas encore gonflés. Voilà. Alors, il n'y a pas de crise des vocations. Il y a toujours autant de médecins en formation, même un peu plus. Donc voilà, mais ils choisissent des spécialités où il y a également de la demande, puisqu'il y a également un renouvellement, le baby-boom, il va également se faire sentir chez nos spécialistes, et donc il y aura des places pour des jeunes spécialistes. Donc, à tarifs différents, le choix est vite fait, hein, c'est tout, ils préfèrent partir sur des filières un peu plus rémunératrices.
Et puis il y a des régions qui sont quand même plus désertées que d'autres, forcément, parce que le cadre, il y a moins de services
pour
des jeunes,
etc. Oui, parce que maintenant les jeunes veulent pour leurs enfants, leur famille, etc., une qualité de vie, possibilité pour les écoles des enfants, etc. Bon, maintenant il n'y a quand même pas de région complètement déshéritée en France quand même, mais il y a des régions qui commencent à ne plus attirer et qui risquent d'attirer de moins en moins. C'est ça le problème, c'est que la spirale, elle est descendante dans la Saône-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, dans la Creuse, en Charente-Maritime même. Vous voyez qu'il y a une région, on pourrait dire Charente-Maritime, pourtant bon, ben c'est une région quand même qui est, voilà, la région le Calvados par exemple, bon, le Mans en dessous de Dreux, tout ça, ce sont des régions extrêmement beaux, c'est des régions extrêmement agréables sur le plan touristique, mais pour y aller en touriste, pour y vivre, les familles se disent, ah oui, mais bon, là, bon. Et comme je peux aller m'installer ben, à Bordeaux, à Toulouse, ils ont besoin de spécialistes, eh ben hop, la transition, elle se fait.
Alors vous-même, alors vous avez le temps, hein, vous n'êtes pas retraité quand même demain matin, mais dans quelques temps, ça pourrait arriver quand même, docteur Hervé Ruinard. Moi, je souhaite que vous soyez toujours longtemps en service, mais on a du mal à trouver un remplaçant quand c'est comme ça.
Alors, on a un peu de mal à trouver des remplaçants qui nous imposent des conditions qu'on accepte forcément. Si on veut des remplaçants, il faut accepter leurs conditions. Maintenant, voilà, l'offre et la demande est telle qu'ils veulent un pourcentage et on leur donne ce pourcentage. Donc, ça les conforte dans leur poste de remplaçant puisque ils peuvent très bien vivre largement en remplacement avec des revenus tout à fait honorables sans la contrainte et sans une charge. Et un petit peu quand ils souhaitent travailler. L'offre et la demande est telle qu'actuellement, ben, on fonctionne comme ça.
Et puis, on entend des déclarations de personnes un peu administratives dans le domaine de la santé qui sont quand même assez rigides et qui, on se demande s'ils connaissent bien la question, alors, sans provoquer tout
alors,
de même.
Ils connaissent la question. Le problème, c'est effectivement le financement. Le grand maître des finances, Monsieur Bruno Le Maire, c'est lui qui, quand même, nous attaque actuellement à lancer la campagne sur les indemnités journalières, en disant que les médecins donnaient des indemnités journalières à tort et à travers pour des raisons parfois futiles. Donc, il s'est bien mis les médecins à son dos. Là, il n'y a pas de problème. On est bien contre lui maintenant, parce que c'est lui qui finalement tient les cordons de la bourse. Donc si mais il a décidé de ne pas mettre d'argent ou pas mettre plus d'argent, eh ben voilà, on est complètement coincé. Alors de faire peur aux médecins en disant on va vous mettre sous objectif, etc. C'est une politique répressive qui va encore plus dissuader nos jeunes confrères, dire bah attendez, si je mets un arrêt de travail et si on vient me contrôler ou me dire non docteur c'est pas bien, vous avez pas bien fait, vous avez pas bien travaillé. Bon ben à ce moment-là effectivement, chose que honnêtement, les spécialistes n'ont pas. On est en première ligne sur les indemnités journalières.
Merci, docteur Hervé Ruinard. Merci, Jean-Pierre Benoît. Vous êtes sur RCF dans le magazine estival. 17h, 18h. On reste ensemble encore quelques minutes sur RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Avec de nouvelles rencontres, de nouveaux invités qui nous rejoignent en studio. Désormais, ils sont trois, éducateurs et résidents à l'Arche, à Reims. Un événement exceptionnel qu'ils vont nous présenter est à venir. C'est le vernissage de l'exposition Témoins. Yann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducateur à l'Arche depuis 6 ans et notamment en charge de l'atelier peinture. On y reviendra d'ici quelques instants. Vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes venu avec deux personnes qui sont accompagnées par l'Arche. On va être galant, on va commencer par les femmes et notamment Alice qui nous accompagne en studio. Bonjour Alice.
Bonjour.
Et à vos côtés, Ézéchiel également. Ézéchiel, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien cette exposition Témoins, je me tourne peut-être d'abord vers Yann. De quoi s'agit-il en quelques mots?
Alors, l'exposition Témoins, c'est le résultat de presque 5 ans de préparation, de création de médiation éducative. Médiation éducative, en fait, ça nous permet à nous, éducateurs, et notamment à l'Arche, de mettre en avant les talents des personnes atteintes de handicap intellectuel. Par le biais de l'art et de la peinture, en l'occurrence, on va pouvoir mettre leur potentialité en avant.
Et cette exposition, ce vernissage, il est à voir donc à partir du 20 juillet, 18h30, à la Petite Halle Quartier Libre, à Reims. Pourquoi vous êtes engagé dans ce projet? Alors Alice, je me tourne vers vous. Lorsque vous avez vu Yann, l'éducateur à l'Arche, qui arrive avec son projet peinture, qu'est-ce qui vous a fait envie? Pourquoi vous vous êtes dit, moi Yann, son projet, j'y crois, j'ai envie de le suivre. Vous aimez la peinture peut-être, Alice?
Oui, est-ce que ça me calme?
Qu'est-ce qui vous calme dans la peinture? Le fait de se retrouver en équipe, peut-être? Le fait de se rassembler, d'être face à sa feuille et de pouvoir s'exprimer? Comment ça se passe?
Moi, c'est quand j'ai une toile, je peux pas m'empêcher de faire des belles créations et ça me calme.
C'est peut-être le mouvement d'être comme ça face à la toile, ça vous fait du bien. Alors, je me tourne aussi vers Ézéchiel, vous aussi, vous êtes accompagné par l'Arche.
Oui.
Et vous êtes également lancé dans le projet peinture. Là aussi, 4-5 années que vous avez passé aux côtés d'Yann, Ézéchiel.
Oui, en fait, la peinture, moi, j'aime bien parce que ça me donne... J'ai beaucoup d'inspiration pour la peinture, c'est ma passion, en fait, la peinture.
C'est tellement votre passion d'ailleurs, Ézéchiel, voilà. Je me permets que vous étiez d'abord peintre en bâtiment.
Et puis j'ai fait de la peinture et tout.
Et là, vous faites de la peinture. Mais alors, qu'est-ce que vous peignez? Alice, par exemple, vous nous avez dit, vous aimez bien vous retrouver face à la toile, faire de la création. Vos toiles, ensuite, à quoi elles ressemblent?
Celle que j'ai fait récemment, c'était comme un feu de forêt.
Comme un feu de forêt, comme alors expliquez-nous
tableaux,
ça.
C'est comme des tableaux surréalistes, un petit peu.
Des tableaux surréalistes. Alors, vous savez, Alice, nos auditeurs sur RCF, ils ne peuvent pas avoir l'image. Il faut leur donner envie d'aller voir cette exposition. Ils ont déjà très envie de vous rejoindre à partir du 20 juillet à 18h30 à la Petite Halle Quartier Libre. Mais un feu de forêt, comment on l'imagine comme ça sur une toile? On imagine peut-être des couleurs. Moi, vous me parlez de feu, j'imagine peut-être du jaune avec des flammes, peut-être du vert. Alors, est-ce que c'est les couleurs qu'on retrouve? Est-ce que ça se passe différemment?
Tout à fait ça. C'est avec chaque couleur, avec ma petite touche personnelle, avec les formes.
Les formes se mélangent et les couleurs se croisent les unes avec les autres. Et vous, Ezekiel, sur votre projet, quelles sont les toiles que vous avez faites?
Mes meilleures toiles que j'ai faites. J'avais fait des dessins, en fait. Et puis, j'ai mis des couleurs et tout. Des fois, j'ai dessiné des trucs, la planète. J'ai fait plein de trucs, en fait.
Donc, ce sont des choses très vivantes, très colorées, on imagine, voilà. Où chacune des personnes accompagnées peut s'exprimer, Yann?
Alors, ouais, on est particulièrement quand même sur une forme d'art brut qui avait été popularisée par Dubuffet. Ce qui est intéressant dans cette activité-là, c'est que ce que nous, on va attendre, c'est pas ce qu'on va voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir et pouvoir interagir avec les artistes et leur demander, tu me dis qu'il y a un feu, mais montre-le-moi. Parce que, effectivement, un feu, ça peut être vert, ça peut être bleu. Il n'y a pas de limite, en fait. Je vous invite vraiment à venir voir pour vous rendre compte avec vos propres yeux de ce qui peut se faire dans l'imaginaire de ces gens.
Alors justement, pour un peu plus teaser encore cette exposition qui va être présentée pendant une dizaine de jours à la Petite Halle Quartier Libre. Encore une fois, le vernissage, c'est à 18h30 le 20 juillet, mais cette exposition, elle va rester visible jusqu'au 30 juillet. Yann, ce sont combien de jeunes qui ont été accompagnés pour présenter pendant cette dizaine de jours combien d'œuvres, combien de toiles?
On essaie de les compter encore en ce moment, mais il y en a beaucoup. Ça représente quand même presque 5 ans d'atelier. On a été coupé par toute la période Covid qui a été très compliquée pour nous. Là, on est en train de faire le tri, on doit être pas loin de 50 œuvres.
C'est quand même pas mal.
Répartis sur 5 peintres en œuvre principale. On a 6 toiles qui ont été créées pour le spectacle qu'on a créé à l'Arche cette année qui s'appelait Émotion.
Un beau spectacle, Émotion, et une belle exposition également, Témoin, que l'on invite nos auditeurs à venir voir. On l'a dit, ce sont 5 jeunes donc qui ont été accompagnés. Alice, Ezekiel, aujourd'hui, vous pouvez parler au nom de vos camarades. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens pour qu'ils viennent découvrir votre art, vos œuvres, ce que vous avez peint? Et puis vous rencontrez vous aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous serez tous ou presque présents là le 20 juillet. Ezekiel.
Oui, on sera là.
Vous avez envie d'échanger avec les gens, quelque part, de les emmener dans votre univers, de leur expliquer certaines choses?
Oui, oui.
Par exemple, on imagine que je viens au vernissage, je suis en train de découvrir vos œuvres, Ezekiel. Comment vous décririez votre univers? Qu'est-ce qui fait vos œuvres?
Je vais les dire que moi, la peinture, en fait, quand j'ai fait de la peinture, ça me détend. Et j'aime bien ça, de peindre dans le calme. Et c'est ça, ma passion, en fait. J'adore faire de la peinture, mais pas de bruit, tout comme ça. Comme ça, ça me donne la force et ça, de faire des trucs.
Alice, justement, vous nous expliquiez, vous, tout à l'heure aussi, comment vous peignez. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui vont venir vous rencontrer pour les emmener un petit peu avec vous?
Déjà, les émerveiller avec les étoiles et...
Et on ne doute pas que ces personnes, elles seront émerveillées par l'étoile, parce qu'il y en aura de très belles. Alors vous, Yann, c'est différent, parce que vous accompagnez ce projet depuis 5 ans, quelque part, vous n'avez pas la surprise. Mais on imagine que de voir cette exposition qui, non pas se termine, mais se concrétise, en tout cas, vous vous dites, waouh, on y est arrivé, on l'a fait tous ensemble.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça, ouais. C'est une nouvelle pression, mais une bonne pression, en fait, parce que voilà, c'est la première fois qu'on s'ouvre, en fait, aux gens et qu'on montre ce qu'on fait tous ensemble. Ezekiel, il a oublié de dire tout à l'heure quand même que quand il peint, c'est pour apporter de la joie aux gens. Et à regarder une toile, ça peut suffire des fois à apporter un peu de luminosité dans la journée d'une personne qui aurait passé une mauvaise journée. Et donc, ouais, pour revenir à l'exposition, ouais, c'est l'aboutissement de 5 ans et je pense qu'il y aura beaucoup de pression qui va retomber à la fin. Et pour le nom de l'exposition, Témoin, c'est juste l'anagramme d'émotion, tout simplement. Et on voudrait que les gens soient témoins de ce que les personnes à l'Arche sont capables de faire. Et si on peut commencer par là, on peut aller sur plein d'autres choses après.
Être témoin d'émotion, voilà un très beau témoignage, Yann. Et puis, c'est vrai que vous le disiez, peindre, c'est quelque part donner de la joie aux gens. Eh bien, ça rejoint un petit peu, nous ici, notre slogan RCF, la joie se partage. Donc, nos auditeurs s'y retrouveront et on les invite évidemment à se rendre à la Petite Halle Quartier Libre pour le vernissage de cette exposition. Mais s'ils ne peuvent pas être là au vernissage le 20 juillet à 18h30, il y a encore une dizaine de jours pour aller la voir, cette exposition. À préciser que si on a peur d'avoir un petit coup de chaud, d'avoir une petite fringale parce qu'on est à l'heure de l'apéritif, la bonne nouvelle, c'est que la Petite Halle Quartier Libre, on peut aussi se restaurer.
Oui, et c'est ouvert du mercredi au samedi. C'est pas ouvert le lundi et le mardi, c'est important de le préciser quand même.
Et je crois qu'on aura peut-être plus d'informations via les réseaux sociaux de l'Arche, notamment via
les réseaux sociaux de l'Arche, les réseaux sociaux de la Petite Halle directement, qui ont déjà communiqué. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour ceux qui y sont.
Eh bien voilà, le message est passé. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu. J'imagine pour votre première radio à tous les trois.
Oui.
Eh bien, ça ne sera pas la dernière, puisque vous aurez certainement de beaux projets, parce que vous allez voir, quand vous allez voir les regards émerveillés, l'émotion que vous distribuerez aux gens, oui, certainement que vous aurez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Celle-ci a duré 5 ans, et là, vous arrivez à un aboutissement, et il y a certainement d'autres projets qui sont déjà en train d'être nourris, aussi bien dans la tête des personnes accompagnées que des accompagnateurs.
C'est déjà en avance. Voilà. On avance déjà.
Eh bien, en tout cas, un très grand merci, Alice. On vous dit à très bientôt.
Oui.
Ézéchiel, à bientôt.
Merci, c'est gentil.
Et à très bientôt, Yann.
Merci à vous.
Merci à tous les trois d'être passés en studio, et puis vraiment une très belle exposition, un très bon vernissage. Le rendez-vous le 20 juillet à 18h30, la petite halle Quartier Libre à Reims.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et en ce premier lundi des vacances, on va regarder sur le monde deux fois plus qu'à l'accoutumée que les autres lundis tout au long de l'année. Après avoir regardé près de chez nous tout à l'heure avec Jean-François Boulanger, cette fois Claude Ruiz nous parle de Christophe Colomb. Bonsoir Claude.
Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet de réflexion pour un petit peu pour les vacances. Donc il va essayer de lier matérialité et spiritualité, en prenant l'exemple de Christophe Colomb. En effet, Christophe Colomb a deux sépultures. Alors, deux sépultures, ça a excité un petit peu ma curiosité. Je me suis dit que dans ces périodes estivales où certains peuvent se déplacer, parfois loin, il faut avoir une réflexion sur cette double tombe de Christophe Colomb. Alors, je suis parti d'une analyse très sérieuse, en particulier d'un historien qui s'appelle Ernst Kantorowicz, qui, en 1957, a montré, vous le savez, sur le plan de la réflexion générale, que, par exemple, dans les personnages célèbres, la monarchie, le roi de France, avait deux corps. Il avait un corps mortel, comme tout un chacun, et puis un corps mystique, la communauté du royaume. Et pour Christophe Colomb, qui n'est pas un roi, même si on l'a appelé, vous le savez, l'amiral de la mer Océane, le problème était de savoir où on pouvait à la fois se recueillir ou trouver des symboles justement de cette réunification en gros entre l'Europe et l'Amérique. Et je me suis aperçu qu'il y avait en gros deux tombeaux à son nom et deux tombeaux qui semblent bien occupés. Donc ça m'a intrigué. Christophe Colomb est bien mort en Espagne le 20 mai 1506 à Valladolid. Donc vous voyez, c'était en gros une des capitales du nord de l'Espagne. Il a connu sa première inhumation sur place, mais à partir de là, c'est le début d'une migration. En effet, 13 ans après son décès, en 1519, sa dépouille, elle est transférée dans le sud, c'est-à-dire dans ce qui représente l'Andalousie, le symbole de la reconquête. Hein. C'est dans une chapelle qui s'appelle la chapelle Santa Ana, dans le monastère de la Cartuja, qui se trouve, on va dire, face au centre de Séville, sur les bords du fleuve du Guadalquivir qui passe à Séville. Donc là, on s'aperçoit d'un sorte de point de préparation, et en réalité, c'est là que notre ami Christophe Colomb prépare un deuxième voyage. Il fera aussi en 1541 un troisième voyage, et Colomb traverse une nouvelle fois donc l'Atlantique. Il traverse une nouvelle fois en 1541 l'Atlantique pour être enterré dans une chapelle. Vous voyez, donc c'est un personnage de l'Atlantique, on va dire. C'est pour ça qu'on l'appelait l'amiral de la mer. Il va être enterré dans une chapelle de la cathédrale de Saint-Domingue. Et là, tranquillement, il va y rester 2 siècles et demi. J'allais dire 2 siècles et demi de repos. Mais tout ne va pas s'arrêter là. Les relations, en fin de compte, internationales vont changer la situation. C'est ce qui explique parfois justement ces différents sites. Et en juillet 1795, donc vous le voyez beaucoup plus tard, 1795, c'est la Révolution et l'Empire pour les Français. Par le traité de Bâle, qui est signé entre l'Espagne et la France, ce traité accorde l'île de Saint-Domingue à la France. Et ben, nous voilà avec Christophe Colomb sur le territoire français. Conséquence, Les Espagnols, qui ne veulent pas laisser Christophe Colomb, l'emportent avec eux. Ils emportent les restes et il est transféré dans un premier temps à la Havane, vous voyez, donc à Cuba. Cuba étant une île restant espagnole. Mais bien entendu, ça va être juste une pause puisque la dépouille de Christophe Colomb va retraverser l'Atlantique et être inhumée, normalement définitivement, dans la cathédrale de Séville. Donc, un dernier voyage, semble-t-il, pas sûr, dirait l'enquêteur, le chercheur, pas sûr, parce que la République dominicaine ne s'est pas consolée de cette perte, hein, d'avoir perdu le découvreur de l'Amérique. Et en 1877, dans la cathédrale de Saint-Domingue, on découvre un coffret de plomb avec des restes humains et il y a une inscription. Et cette inscription, alors, je peux vous la lire en espagnol, c'est « Baron ilustre et distinguido Cristóbal Colón ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Seigneur illustre, si vous voulez, et distingué, Cristóbal Colón ». Et cela va permettre de remettre en cause un petit peu le transfert de la dépouille de Christophe Colomb de l'Amérique vers l'Europe. Saint-Domingue profite du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, vous le savez, en 1992, pour réaliser un monument dans la banlieue de la capitale. Il dépense beaucoup d'argent, hein, c'est évalué à 70 millions de dollars, donc vous voyez, c'est pas un petit monument, c'est quelque chose de très important où on y met les restes. De ce fait, vous le voyez, nous sommes dans des enjeux mémoriels. Alors, on se promène, hein, vous voyez, dans l'espace, là. Enjeux mémoriels, Saint-Domingue ou Séville. Donc, vous avez le choix parce que il y a aussi des aspects parfois de pèlerinage liés à cette mise en place, donc, de l'Amérique. Et comment peut-on s'en sortir? Eh ben, on a essayé scientifiquement. Et scientifiquement, on a cherché des preuves. En 2006, on est passé par des tests ADN. On a pris les dépouilles et on a cherché donc de savoir si ces dépouilles pouvaient s'apparenter à Christophe Colomb. On considère que ces éléments que l'on a retrouvés, les dépouilles qu'on retrouve à Séville, sont vraiment apparentés à la famille de Christophe Colomb. Peu de risques de confusion avec son frère qui était mort plus tôt. Et puis, d'autre part, dans la famille, les personnages qui pourraient être à l'intérieur, ça pouvait être son fils qui est devenu vice-roi des Indes, mais qui meurt en 1526. Donc, en réalité, incertitude réduite. On peut penser qu'à Séville, nous avons donc les restes de Christophe Colomb. En réalité, certains disent qu'il aurait mieux valu qu'il décède en mer pour un amiral de la mer Océane, ça aurait pu être important, puis ça nous aurait évité, en fin de compte, de chercher à fixer, en fin de compte, des lieux. Mais les historiens cherchent, la population et les pays, vous le voyez, cherchent des représentations. Il y a une incertitude, mais je dirais qu'ils valorisent en permanence les liens de part et d'autre de l'Atlantique, et c'est peut-être ça qu'il faut juste retenir. Au revoir.
Au revoir Claude, on vous retrouve régulièrement tout au long de cette semaine.
Le 18-19 sur RCF.
On est encore ensemble jusqu'à 18h dans ce magazine estival et on termine avec du sport et les championnats du monde de para-athlétisme qui se sont ouverts ce week-end du côté de Paris. C'est parti pour 10 jours de festivités. Nicolas Nepper est juge des départs, coordinateur des équipes de départ. Nicolas Nepper, bonjour.
Bonjour Alexis.
Déjà un petit mot sur ces championnats du monde de para-athlétisme. Concrètement, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette compétition?
Alors très très concrètement, donc il s'agit, comme tu l'as évoqué, d'un championnat du monde para-athlétisme, donc toutes les épreuves de l'athlétisme pour les athlètes handicapés, tout style de handicap, de la déficience visuelle à la déficience mentale pour certains, et des handicaps un petit peu plus lourds avec des fauteuils roulants pour d'autres. Voilà, c'est une compétition qui a lieu actuellement au Stade Charletti à Paris sur 10 jours exactement.
J'allais dire, on a de la chance en France de pouvoir accueillir ce très bel événement, le coup d'envoi a été donné ce week-end donc.
Donc le coup d'envoi a été donné dimanche et il se terminera lundi 17 exactement.
Et là, on est parti pour quelques jours donc de compétition. Et vous, Nicolas Nepper, vous avez un rôle tout à fait particulier puisque vous êtes juge de départ et même coordinateur des équipes de départ. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Ça signifie que j'ai à coordonner par session sur une journée les équipes de départ, donc le ou les starters de rappel, les aides de starters jusqu'à la chambre d'appel pour aller chercher les athlètes. Voilà mon rôle.
Alors quand vous nous parlez des starters, évidemment pour vous ça vous paraît évident, mais j'allais dire pour le public qui n'est pas averti, finalement le starter c'est quoi ? C'est le monsieur ou la dame que l'on voit avec son pistolet donner le coup d'envoi de la course ?
C'est ça, c'est exactement ce poste-là, celui qui est sur l'échelle, hein, qui est toujours un petit peu en hauteur pour voir tous les départs. Les starters de rappel sont des collègues à lui qui sont à côté sur la piste et qui ont le fameux pistolet qui claque quand il y a un faux départ. Et puis les aides starters, ce sont tous les autres starters qui sont là pour définir si les roues, les chariots, les mains sont bien placées, etc.
Mais on imagine que le rôle de starter, Nicolas Nepper, ça ne se limite pas à un coup de pistolet, ça doit être un petit peu plus complexe que ça. Concrètement, vous, comment vous êtes devenu starter par exemple ? Quelle est la formation à suivre ?
Alors moi, sur mon cas personnel, j'étais initié déjà dans des clubs d'athlétisme, Fédération Française d'Athlétisme. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis aperçu qu'en France, c'est un des postes les plus défaillants en termes de personnes, puisque c'est des postes où vous êtes sur une compétition du début jusqu'à la fin, en permanence sur l'organisation des courses. Je me suis prêté au jeu pour avoir essayé une fois, justement, en allant chercher des athlètes dans une chambre d'appel. Puis petit à petit, avec des formations fédérales, ça fait maintenant 15 ans que je suis starter et au niveau fédéral. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir été invité à une organisation international mondial, voilà.
Quand on est juge arbitre comme ça, c'est un petit peu comme lorsqu'on en est joueur, finalement, c'est une chance de pouvoir participer à ce genre d'événement. Quelle est votre impression sur ce plateau-là que vous découvrez à l'occasion de ces championnats du monde de para-athlétisme ?
C'est une chance, hein, je confirme, et on prend considération complète. Et là, actuellement, autour de nous, donc, il y a 117 nations représentées pour à peu près 2000 para-athlètes de tous les niveaux, de tous les pays, sur toutes les compétitions. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, aussi bien course, hein, faut pas oublier qu'il y a aussi des lancers, les sauts, avec des épreuves très, très impressionnantes, comme par exemple le saut en longueur pour non-voyants. Voilà, quelque chose qu'il faut vivre dans sa vie.
Et vous, vous êtes mobilisé tous les jours au quotidien ou sur le rythme de la compétition ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des jours de repos, des moments de la journée où vous êtes plus sollicité que l'autre ?
Actuellement, je suis des équipes, moi, de l'après-midi. Hein. Il y a deux équipes identiques, une le matin et l'après-midi. Moi, c'est l'après-midi sur tous les jours de la compétition.
Et donc, ce rôle de starter, effectivement, Nicolas Nepper, ça ne doit pas être évident à gérer, d'autant plus sur ce genre de compétition où les enjeux pour les athlètes sont cruciaux. Finalement, vous-même, vous avez un rôle assez crucial et prépondérant lors de cette compétition.
En effet, c'est un rôle qui est très très exigeant, important et crucial, comme vous dites, puisque un record du monde ou un titre de champion du monde peut être affecté sur ce type de course, donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. D'où la notion d'équipe de starter pour être au moins 7 à 10 à juger d'un départ.
Et le fait que ça soit une compétition de para-athlétisme, est-ce que votre rôle de starter, Nicolas Nepper, change et modifié par rapport à une compétition avec des athlètes d'Ivalide ?
Oui, 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 bien sûr, tout à fait. On connaît tous le départ de course dit valide, donc Fédération Française d'Athlétisme. Là, cette fois-ci, imaginez, on donne des départs à des fauteuils roulants, on donne des départs à des déficients visuels qui courent accompagnés d'un guide. On a aussi des athlètes qui sont amputés, donc avec des positions de départ bien différentes. Donc on a eu une formation là pendant les 6 derniers mois régulière, justement, pour notre mise à jour des connaissances de ces types de départs particuliers.
Et oui, on imagine que ça doit pas être simple à gérer tout cela. Alors on l'a dit avec vous, Nicolas Nepper, le coup d'envoi de ces championnats du monde de para-athlétisme a été donné à Paris ce week-end. Ça va se passer tout au long d'une dizaine de jours. Pour vous, vous êtes déjà sur le pont depuis la fin de semaine dernière.
C'est ça. Moi, j'ai rejoint les équipes jeudi dernier pour les préparatifs, les préparations. La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi après-midi, le début des épreuves dimanche matin, et on terminera le 17, lundi 17, par la cérémonie clôture.
Alors, soyez nos yeux, Nicolas, et dites-nous cette cérémonie d'ouverture, ce que vous avez envie d'en retenir.
Encore une fois, c'est ce nombre de nations sur un sport qu'on connaît peu ou pas en France, en tout cas le para-athlétisme. 117 nations étaient présentes avec les porte-drapeaux de tout type de handicap, donc des vraies fortes valeurs en tout cas sur ces sports et notions d'olympisme.
Et vous qui connaissez le monde de l'athlétisme, Nicolas Nepper, on vous connaît aussi ici dans la région pour avoir été notamment engagé du côté de l'EFSRA. Dites-nous un petit peu, est-ce qu'il y a des chances françaises pour ce championnat du monde de para-athlétisme ?
Alors oui, je vous confirme. Alors déjà qu'il joue en local, hein, puisque c'est à Paris, mais il y a actuellement sur le plateau une dizaine de forts potentiels de médaillés, aussi bien en course, en saut et en lancer.
Alors justement, lorsque l'on est comme ça juge starter, on sait que dans certains sports, par exemple, un juge français ne peut pas juger un athlète français. Est-ce qu'en athlétisme, c'est la même chose ou est-ce que là, il y a des coordinations qui se font différemment? Comment ça s'organise au niveau du règlement dans ce cas-là?
Les règlements internationaux, ils sont clairs, que ce soit des championnats du monde comme ceci ou les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent très très vite. Il y a monopolisation de forces vives, on va dire, équipe de starter locale française, plus des juges internationaux, dont deux juges arbitres internationaux qui sont là aujourd'hui avec nous, un Anglais et un Brésilien, qui sont là justement pour nous encadrer et faire respecter l'impartialité nécessaire.
Alors pour revenir un petit peu sur votre rôle lors de cette compétition, Nicolas Nepper, on imagine davantage avec votre casquette de coordinateur de juge des départs. C'est vraiment un vrai boulot de coordination et prendre l'information à un point, la ramener à un autre point et faire le lien entre toutes les équipes, hein.
C'est exactement ça, Alexis. Plus parler en anglais, puisque c'est une compétition internationale, plus être en relais permanence avec la télévision. Nous sommes retransmis sur l'équipe 21, exactement, qui nous parle en direct, et c'est eux qui nous donnent le top départ pour les courses par rapport aux retransmissions. Donc c'est un travail de management, quoi, ni plus ni moins.
Oui, avec ce timing donc très serré, et d'être bien vigilant, tout se passe bien, Nicolas Nepper. En tout cas, un grand merci d'avoir pris de votre temps précieux en matinée, même si on l'a bien compris, vous allez être vous sur le pont, notamment tous les après-midi à l'occasion de cette compétition. Nicolas Nepper, on vous souhaite de passer une belle dizaine de jours qui sont déjà bien entamés du côté de Paris et du Stade Charletti avec ces championnats du monde de para-athlétisme. Et puis, même si vous, vous êtes là en tant que juge-arbitre, on espère bien que vous puissiez apporter, j'allais dire, de bonnes ondes aux athlètes français.
Oui, oui, j'y vais tous les jours, d'amener des ondes positives, encore une fois, en vue de Paris 2024 qui arrive très vite.
À très bientôt, Nicolas Nepper, et puis très bon séjour parisien et bon courage, à bientôt.
Merci, au revoir.
Et c'est sur cet ultime entretien que se referme le magazine estival. Ce lundi, on se retrouve demain, mardi, toujours à la même horaire, 17h-18h. Très bel été en compagnie de RCF.